deuxième temps d'une semaine de la Fabrique de l'Histoire. À quelques jours de la rentrée, nous vous proposons de réécouter des émissions de la Fabrique consacrées à l'histoire du Moyen-Âge. Hier, nous avons accompagné Victor Massé de Lépinay et Véronique Samouilov ainsi que leurs invités dans une abbaye carolingienne avec Nithard, premier scripteur de langue française. Aujourd'hui, notre documentaire vous propose de rejoindre Constantinople à la veille de sa chute en 1453. Anaïs Quien et Françoise Camard nous emmènent, grâce à Marie-Hélène Blanchet, Vincent Desroches et Nicolas Vatin, dans cette capitale de l'Empire byzantin assiégée par Mehmet II, jeune sultan ottoman et dont la chute marquera le monde entier.
Je viens de la malédiction, du cœur des ténèbres, de la nuée de foudre, du tourbillon des vents. Je viens de la ville consumée par la foudre. Je ne porte pas de cargaison, je porte des messages de malheur, amers et douloureux pour les chrétiens. Quand les Turcs sont venus, ils ont pris la ville et massacré les chrétiens, là et de toutes parts.
...1453, la chute de Constantinople. En 1453, la ville de Constantinople, officiellement rebaptisée Istanbul au XXe siècle, est conquise par le sultan Mehmet II. C'en est fini de l'Empire chrétien d'Orient. Constantinople sera désormais le fleuron d'un empire musulman. Depuis quatre siècles, les églises d'Orient et d'Occident se sont éloignées. Les controverses théologiques et les conflits d'autorité ont eu raison de l'unité chrétienne. En 1453, à Constantinople, on trouve des chrétiens de tradition orientale, des latins venus majoritairement d'Italie et reconnaissant l'autorité du pape et de Rome, mais on y trouve aussi des juifs, des musulmans, des grecs, des slaves, des turcs, une société profondément cosmopolite installée entre la mer Noire et la mer Égée. 1453 trône au rang de mythe dans la culture catholique, une des dates importantes de la chronologie historique scolaire. Elle rappelle l'existence de Byzance, empire oublié, au temps où la chrétienté bicéphale se partageait de part et d'autre de la Méditerranée, entre Rome et Constantinople. Le passé flamboyant de Byzance raconte un temps où le christianisme prétendait régir le monde entier. Si sa capitale change de main, elle n'en perd pas pour autant son aura de berceau de la chrétienté et du monde occidental. Mais en 1453, Byzance se résume à sa cité légendaire et à son arrière-pays. Et Mehmet II, un jeune sultan ottoman, va bouleverser le partage du monde connu.
Mehmet vint à Magnésie alors que c'était déjà la mi-janvier. Puis quand ce mois fut passé, le 5 février, un courrier tel un aigle au vol rapide se présenta devant lui et remit entre ses mains un pli soigneusement scellé. Il le décacheta, le lut et apprit la mort de son père. Sur l'heure, il monta sur l'un de ses coursiers arabes et dit à ses grands qui même me suivent.
La chute de Constantinople et ses récits, avec trois historiens, Marie-Hélène Blanchet, Vincent Desroches et Nicolas Vatin.
Comment pourrait-on caractériser Mehmet II ?
D'abord, c'est un souverain. Il va se définir comme un bey, ce qui veut dire un roi, un prince. Hein. C'est un homme qui est extrêmement autoritaire, volontaire, sourcilleux, cultivé. Il a fait son métier de souverain. Alors, il faut bien voir qu'à l'époque où nous nous trouvons, l'Empire ottoman est une puissance importante. Elle n'est pas la puissance musulmane unique dominant le monde qu'a pu apparaître l'Empire ottoman dans les siècles postérieurs. Je dis apparaître parce qu'il y a quand même d'autres puissances musulmanes indépendantes, bien sûr. À l'époque où nous nous situons, le grand souverain musulman prestigieux, c'est le sultan Mamelouk au Caire, qui est le serviteur de saint sanctuaire de la Mecque et Médine, donc la personne qui a la charge d'assurer la sécurité de ces deux places saintes. alors que Mehmed II va se définir comme, quand il écrit au sultan Mamelouk pour annoncer la victoire de Constantinople, il est respectueux, le sultan Mamelouk est quelqu'un de plus important que lui, mais lui, il est la jeunesse d'avenir, il dit « moi je fais de la Gaza, c'est moi qui, aux marges des territoires de l'islam, combat pour l'islam contre les mécréants, et la conquête de Constantinople est évidemment la plus belle des Gazas possibles ».
Vincent Desroches, comment Mehmed II prépare-t-il cet assaut ?
Alors, par des capacités justement qui expliquent la grande puissance des Ottomans jusqu'au XVIIe siècle, la capacité à mobiliser la population, infiniment plus que par les systèmes de levée féodale et d'impôts relativement légers des souverains occidentaux. Les effectifs turcs sont énormes et surtout, la main-d'œuvre mobilisable est considérable. Donc, Mehmed II arrive avec des troupes en très grand nombre et peut très vite monter des machines de siège, des mines, bloquer tout, prendre les petites places byzantines. Sa supériorité numérique est absolument écrasante. Et à côté de cela, Mehmed II est très conscient de la modernisation de l'art de la guerre occidentale, et c'est l'innovation la plus remarquable sans doute. Il va débaucher des experts canonniers occidentaux à prix d'or, car il est riche, lui beaucoup plus riche bien sûr que l'Empire byzantin et d'autres, leur faire fondre des canons d'une taille inattendue et obtenir un bombardement régulier, constant et massif des murailles de Constantinople. D'un point de vue technologique, les technologies occidentales sont absorbées autant que possible. Alors là où les Ottomans échouent seulement, c'est sur la marine, parce qu'ils n'ont pas l'architecture navale de vaisseaux de haut bord, et cela explique qu'alors que Mehmed II a fait construire des centaines de vaisseaux, qui sont des petites galères fondamentalement, lorsqu'arrivent quatre gros vaisseaux à voile, qui sont déjà pratiquement les vaisseaux de l'époque moderne, de secours à Constantinople, ils passent littéralement à travers les galères ottomanes, qui ne peuvent pas les arrêter, malgré de vigoureux efforts et beaucoup de pertes ottomanes.
Doukas, historien byzantin.
Au début de l'hiver, il fit parvenir des ordres et des proclamations en Occident et en Orient, dans chaque province, pour qu'on tînt près 100 artisans maçons avec des manœuvres à proportion de ces maçons, ainsi que des fabricants de chaux, bref, toute la main-d'œuvre et toutes les fournitures. Il devait être prêt au printemps pour construire une forteresse au détroit du Hiéron, au-dessus de la ville. Quand les Romains apprirent cette nouvelle, ceux qui habitaient la ville, mais aussi les chrétiens établis dans toute l'Asie, en Thrace et dans les îles, ils furent paralysés de douleur. Entre eux, ils n'avaient plus qu'un sujet de conversation, plus qu'une nouvelle. Maintenant, la fin de la ville est proche. Voici que résonnent les cimandres annonçant la ruine de notre nation. Voici les jours de l'Antéchrist. Qu'allons-nous devenir ? Qu'allons-nous faire ?
Symboliquement, la prise de Constantinople est importante, mais de manière très pragmatique, à quoi sert-elle ?
À l'époque où nous nous situons, l'Empire ottoman entoure complètement Constantinople et enserre les autres territoires byzantins, parce que Constantinople n'est pas le seul territoire byzantin à l'époque, le Péloponnèse est encore byzantin, et un certain nombre de positions sur la mer Noire. Donc, Constantinople est une espèce de verrue au milieu des territoires ottomans, et on fait des affaires avec les Constantinopolitains, on peut avoir des relations courtoises avec eux, mais il reste qu'ils peuvent à tout moment, malgré tout, beaucoup gêner les Ottomans dans leur circulation d'Anatolie en Roumélie, d'Asie en Europe, et réciproquement, qui se font soit par les Dardanelles, soit par le Bosphore. Mais il suffit que les Byzantins se mettent d'accord avec la flotte vénitienne, par exemple, qui peut bloquer les détroits aux Dardanelles, ça peut devenir compliqué. Et ça l'a été d'ailleurs. Et donc, posséder Constantinople, c'est, disons, mettre un terme à quelque chose qui est devenu, du point de vue ottoman, un archaïsme gênant. De toute manière, les Ottomans, un jour ou l'autre, ont fini par s'emparer de Constantinople. La question est de savoir pourquoi ils l'ont fait à ce moment-là. Et là, il y a des réponses qui seront plus d'histoire intérieure. Le sultan a besoin de s'affirmer politiquement par une brillante réussite militaire, d'autant plus qu'un jeune sultan est toujours un petit peu soupçonné d'être faible, d'autant plus qu'il y a des ennemis tout autour, et que ça va clore le bec à un certain nombre d'opposants sous le tapis, qui ne se mettent pas très en avant, mais d'opposants à sa personnalité, qui sont des gens qui étaient plutôt des partisans de la politique menée par le grand vizir Halil Pacha, hérité de son père, qui lui était plutôt prudent, considérant que ce n'était pas la peine de se créer des difficultés, de risquer des croisades, et qu'il valait mieux s'entendre avec les Byzantins. Bon, quand Mehmed II décide de le faire quand même, il va obéir et participer à la conquête, mais il y avait des visions différentes de ce qui devait être fait. Voilà.
Et la grande puissance militaire qui s'oppose aux entreprises turques et qui va être de nouveau très active dans les décennies suivantes, c'est la Hongrie, sous la régence de Jean Hunyadi. Mais la Hongrie a gardé un souvenir évidemment médiocre de la croisade de Varna, où elle a payé le prix fort, disons, des centres de soutien entre les occidentales.
Donc elle est diminuée à ce moment-là.
Elle est diminuée, et aussi, elle ne rencontre plus qu'un Varna des appuis, puisqu'à cette époque-là, on est en train de finir la guerre de Cent Ans entre France et Angleterre, et l'Angleterre est déjà dans le début de la guerre des Deux Roses, et que les conflits internes au Saint-Empire romain germanique font que l'empereur et aussi la future Autriche sont un peu trop occupés par d'autres affaires. C'est-à-dire que Constantinople est là depuis si longtemps qu'on dirait que l'urgence, la réalité de la menace, échappe à beaucoup de consciences occidentales. C'est-à-dire justement, c'est intéressant de voir ensuite qu'il y a eu des échos très lointains parce que les Occidentaux ont tout d'un coup réalisé en fait, la fragilité de leur position, et l'idée d'un péril turc s'est de nouveau imposée aux esprits. Non sans raison, puisque Mehmet II va lancer une pointe jusqu'à l'Italie du Sud, à Otrante, même si c'est un effort, évidemment, voué à l'échec, qui ne va pas durer. Les Occidentaux ont un temps de retard sur l'histoire, pour la majorité d'entre eux, pour ceux qui ne connaissent pas très bien les affaires d'Orient.
Donc, Marie-Hélène Blanchet, au moment de ce siège et de cette chute de Constantinople, au sein même des Byzantins orthodoxes, il existe des divisions qui s'expriment parfois de manière très violente, d'ailleurs.
Alors, violente, oui, violente en parole, pas violente en acte. C'est-à-dire qu'on pourrait identifier trois grandes tendances, bien que ce soit toujours un peu schématique. Vous avez les unionistes, les Byzantins, donc les Grecs unionistes, qui veulent... qui cherchent en fait l'alliance avec les Latins et qui attendent des Latins le secours pour la ville, pour l'Empire. Qui peut encore, il faut quand même le dire, hein, cet Empire n'était pas destiné à tomber forcément à cette date-là. Hein, il n'était pas totalement dévitalisé. Hein, voilà. Donc c'était jouable, je veux dire, la défense de Constantinople avec l'aide des Latins, avec une flotte qui serait venue de Venise, comme ça avait été déjà le cas d'autrefois. Il y a eu des croisades. Hein, au secours de Constantinople, des tentatives de croisade.
Oui, parce que ce n'est pas le premier siège de Constantinople.
C'est pas non plus le premier siège, effectivement, voilà. Autre tendance, les Byzantins anti-unionistes, qui récusent donc toute alliance avec les Latins, pour des raisons religieuses, pour protéger l'orthodoxie, qui est devenue une composante de l'identité byzantine à ce moment-là. Et eux sont dans une voie un peu étroite, c'est-à-dire ni pour la demande d'un secours des Latins, ni pour l'alliance avec les Turcs ou la reddition envers les Turcs.
Pour l'indépendance, une certaine autonomie.
Bah pour le maintien de l'Empire, si c'est possible, mais en même temps, ils voient bien que sans secours, par contre, l'Empire n'était pas condamné forcément à chuter à ce moment-là, mais sans secours, il peut difficilement se défendre face aux Ottomans. Donc là, en fait, on a une tendance qui est pratiquement mystique, c'est-à-dire avec une attente de la fin du monde, l'idée que de toute façon la ville sera sauvée par un miracle divin, quelque chose comme ça. Voilà.
Et ces Byzantins-là ont accepté d'abandonner l'idée même d'un empire byzantin.
L'enjeu, c'est que si on fait appel à l'Occident, est-ce que l'Occident ne va pas prendre le pouvoir en réalité ?
Qui sont ces Latins qui sont à Byzance à ce moment-là ?
Alors, les Latins à Byzance sont principalement des Génois et des Vénitiens.
Mais ce sont des familles très implantées sur le territoire, qui font souche d'une certaine façon.
Oui, qui font souche, tout à fait. Oui, oui. C'est des colonies vénitiennes, vraiment. Donc, pour Constantinople, les Vénitiens ont un quartier avec des églises, avec... tout un réseau dans Constantinople même. Et en ce qui concerne les Génois, ils ont une ville qui s'appelle Péra, qui est en face de Constantinople. C'est aujourd'hui le quartier de Galata à Istanbul. Donc toute cette zone, de l'autre côté de la Corne d'Or, est une ville génoise fortifiée, par concession de Michel VIII, paléologue, au XIIIe siècle. Donc là aussi, on a des Latins qui ont fait souche, et qui vivent là, et qui commercent, et voilà, qui ont donc des intérêts extrêmement importants, et des relations évidemment avec la métropole, respectivement Venise et Gênes.
Le tyran mit donc le siège devant la ville le 6 avril, qui était le vendredi après Pâques.
Et quel va être le plan de bataille de Mehmet II ?
Le principe, c'est toujours plus ou moins le même, c'est d'empêcher les communications avec l'extérieur pour empêcher l'approvisionnement.
Nicolas Vatin.
Ce qui est efficace par voie de terre et moins par voie de mer, parce que les marins ottomans sont loin d'avoir la capacité d'affronter des marins génois ou vénitiens bien expérimentés. Et donc certains gros bateaux vont réussir à passer malgré tout pendant le siège, donc ça c'est le premier point. Et d'autre part, eh bien, on fait des mines et des contre-mines, c'est-à-dire qu'on fait des tunnels sous les murailles, on place des charges explosives et on espère que ça va faire sauter toute ou partie des murailles. Et puis on bombarde jusqu'à ce qu'on crée une faille suffisante pour pouvoir partir à l'assaut en vagues successives. Et puis on essaye plusieurs assauts jusqu'à ce qu'on ait le bon, au bon endroit. Donc on va concentrer les tirs aux endroits où ça pourrait être utile.
Doukas, historien byzantin.
Sur terre, le sultan fit amener le fameux grand canon et l'installa face au rempart, près de la porte Saint-Romain. L'ingénieur prit ses repères. Il avait en effet, à côté du canon, deux bouches à feu qu'il avait fabriquées et qui contenaient des pierres habilement travaillées. Quand il voulait tirer le grand canon, il repérait tout d'abord l'endroit en tirant avec le petit, puis il faisait ses calculs et procédait au tir du très grand canon. Quand il eut tiré le premier coup, les gens de la ville, entendant le vacarme, furent saisis d'effroi et ils criaient le Kyrie Eleison. Les Turcs, peu à peu, approchèrent des murailles à l'abri de leurs boucliers et placèrent leurs échelles. Mais ils n'arrivaient à rien car d'en haut, les défenseurs les en empêchaient en leur jetant des pierres. Alors donc qu'ils étaient arrêtés par cet obstacle, tous les Romains, avec l'empereur, faisaient face à l'ennemi avec pour seul but de toute leur force d'empêcher les Turcs de pénétrer par les remparts écroulés. Mais à leur insu, Dieu, qui voulait qu'il en fût ainsi, fit entrer l'ennemi dans la ville par une autre voie. Une cinquantaine de ces guerriers fameux, les esclaves du Seigneur, voyant que la porte était restée ouverte, bondirent à l'intérieur, escaladèrent les murailles, soufflant une haleine de feu et tuant ceux qu'ils rencontraient. Ils frappaient les tireurs. On put voir alors un spectacle à faire frémir. Parmi les Romains et les Latins qui empêchaient qu'on appuie les échelles au rempart, les uns furent taillés en pièces par ces hommes, tandis que les autres, les yeux fermés, se précipitaient au bas du mur et le corps fracassé achevait ainsi leur vie d'une façon horrible. Alors les Turcs dressèrent leurs échelles sans en être empêchés et ils montaient aussi vite que des aigles prenant leur envol.
Tursun Bey, historien ottoman.
Au matin, quand le sang eut coulé dans la plaine du crépuscule à la suite du combat, le padishah enfourcha le cheval de la victoire. La bonne fortune devant lui et dans son dos la félicité, à sa droite l'aide divine et à sa gauche la combativité. Il s'approcha de la forteresse, fit jouer les tambours qui ornent la victoire et ordonna « Par la grâce de Dieu qu'il soit exalté, pillage, Dieu est le plus grand !» Ils poussèrent en avant les ambassadeurs du terme fatal et messagers du trépas, autrement dit, les canons qu'ils avaient préparés auparavant. Avant que les mécréants étourdis se fussent remis du choc des boulets, le signal du combat fut donné de tous côtés et les gazis montèrent à l'assaut par escouade au cri de « Allah, Allah !» pareil à des lions rugissants.
L'empereur, désespérant de son sort, se tenait là, l'épée et le bouclier à la main, car il avait été abandonné tout seul. Alors un Turc le frappant en face, l'atteignit d'un coup. Il rendit l'appareil au Turc, mais un autre, par derrière, lui porta un coup mortel, et il tomba à terre. Ils le laissèrent là, car ils ne savaient pas qu'il s'agissait de l'empereur, et pensaient avoir tué un soldat ordinaire.
L'empereur Constantin XI a à peu près certainement péri ce jour-là.
On n'en est pas sûr.
Mais voilà, on n'est pas sûr d'avoir retrouvé le corps.
Vincent Desroches.
Plusieurs récits le présentent mort au combat, avec des versions plus ou moins glorieuses ou au contraire infamantes. Fuyait-il ou est-il combattu sur la brèche jusqu'au même moment? Et comme il semble bien qu'on n'ait pas réussi à identifier le corps, parce que les quelques traces dans les sources musulmanes ne sont pas bien claires, comme s'il n'avait pas réussi à mettre la main sur le corps, on s'est toujours posé la question, effectivement. En tout cas, s'il est mort au combat, c'est donc sur la brèche vers la porte Saint-Romain, l'endroit majeur où s'est produit la percée ottomane. Sinon, peut-être ailleurs en fuyant à l'intérieur de la ville et autres. Mais en tout cas, on ne l'a pas vu ressurgir en Occident. Donc le plus vraisemblable est qu'il est bien mort sur place à Constantinople. Mais peut-être dans l'anonymat.
Une fois que Constantinople est défaite, quel vainqueur est Mehmed II ? Comment se comporte-t-il ?
Il se comporte en souverain musulman. Ça veut dire que la place, puisqu'elle n'a pas accepté la souveraineté de l'islam, ce qui peut signifier la conversion, mais tout simplement le fait qu'on accepte le statut de sujet de second rang, de zimmi, la place donc a refusé de céder et sa population, par conséquent, peut être asservie ou tuée ad libitum. Le pillage de l'ensemble est parfaitement légitime et nécessaire aussi si on veut s'assurer la fidélité de ses troupes.
C'est-à-dire que pendant le siège, des propositions de reddition ont été formulées ?
C'est normalement obligatoire, oui, qui ont été repoussées. Et donc, la place tombe et un pillage est offert à la troupe, un cinquième revenant au sultan. Et d'autre part, pour les Ottomans en tout cas, le sol appartient à la couronne. Pas les superstructures, pas la maison, mais le sol sur lequel est la maison. Et ça a des incidences sur la façon dont est repeuplée la ville ensuite. Et donc, tout ce qui pouvait être pillé sera pillé, tout ce qui était vivant peut être asservi ou tué, en général asservi, parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt de tuer les gens. Enfin, du moins dans un contexte comme celui-là. Dans une expédition à l'extérieur, on peut avoir intérêt à se débarrasser de gens qui vous encombrent pour revenir à vos bases. Mais quand on conquiert une ville, pourquoi tuer les gens ? On a intérêt plutôt à les asservir, à les revendre. Simplement, il y a des traditions divergentes sur la question, on ne sait pas avec précision ce qu'il en est, mais un certain nombre de sources, aussi bien byzantines qu'ottomanes, disent que Mehmed II a fait arrêter le pillage au bout d'un jour, au lieu des trois promis à la troupe, c'est-à-dire qu'il a voulu quand même arrêter les frais à un moment donné.
Tursun Bey.
Alors qu'il visitait, observant la succession des maisons, les quartiers, les rues et les marchés de cette antique cité, de cette vaste forteresse, Mehmed II montra le désir de voir l'église nommée Sainte-Sophie, qui est un signe du paradis. Il sortit sur le toit de la coupole, tout en contemplant son pavement aux vagues marines depuis les galeries qui se trouvaient aux différents étages. Quand il constata que les annexes et dépendances de ce puissant bâtiment étaient en ruine et détruites, il se fit la réflexion que ce monde est sans constance et sans permanence, et qu'en fin de compte, il tombe en ruine.
On a plusieurs descriptions par des chroniqueurs ottomans qui sont extrêmement admiratifs devant la beauté de la coupole. Et on sait que ça va être un défi pour les architectes ottomans dans les siècles suivants de réussir à faire aussi bien. Mais pas seulement. Les mosaïques aussi, ces petits morceaux de verre teint à l'or, ça les fascine absolument. Il y a quelques descriptions. Et de même que les assemblages de marbre polychrome. Et il faut savoir que ces mosaïques, contrairement à ce qu'on croit, n'ont pas été détruites, mais n'ont même pas été badigeonnées. Au début, en fait, ça s'est fait très progressivement. Il y a quelques parties qui ont été dissimulées, mais le plus gros a longtemps été visible. C'est petit à petit, de restauration en restauration, dans un esprit de plus en plus orthodoxe, qu'on les a cachés aux yeux du public. Et puis on en a fait une mosquée quand même, bien sûr, parce que c'est devenu la mosquée cathédrale, en conservant son nom, car c'est Hagia Sophia. Ça n'est pas seulement issu du grec, c'est pratiquement du grec.
Mais comment transforme-t-on une église en mosquée ?
Alors, on transforme une église en mosquée, d'abord en y faisant la prière musulmane. Et puis, il y a quelques aménagements à prévoir, mais qui ne sont pas très lourds. Il faut une petite niche qui donne la direction de la Mecque. Alors, évidemment, ça veut dire que souvent, dans une église, la niche ne sera pas dans l'axe de l'entrée. Il va falloir la mettre un peu de biais. Mais comme elle n'est pas très monumentale, ce n'est pas très grave. Et puis, on va mettre un ou plusieurs minarets pour l'appel à la prière. C'est ce qui a été fait à Sainte-Sophie.
Revenons à notre récit. Quand, par la grâce de Dieu, la place fut prise, l'ennemi fut abattu et se trouva dans une position de totale faiblesse. La bride fut laissée sur le cou des gens de foi musulmane Et comme le désir des beautés met à sac les pays du cœur et de l'âme, levant le pied de l'audace, ils tendirent les mains vers la mise à sac et le pillage. De toutes les maisons dont les porches montaient jusqu'à Saturne et les étages jusqu'au ciel, ils saisirent dans les couches brodées d'or et les rideaux ornés de pierreries et poussèrent dans les rues et les marchés ceux qui avaient des cheveux pareils aux boucles des idoles, parmi les jolis garçons de toutes origines, grecs et francs, russes et hongrois, chinois et du Khotan. Jeunes gens attirants, garçons asservis pareils à la lune, de douce nature et d'aspect paradisiaque.
Assiste-t-on également, Vincent Desroches, à de forts mouvements de population au lendemain de cette chute de Constantinople ?
Alors, les mouvements de population que l'on constate, véritablement importants, sont justement vers Constantinople. C'est en fait le repeuplement forcé qu'impose Mehmed II, c'est une tradition des empereurs byzantins bien avant, en récupérant autant que possible les captifs du siège, mais en déplaçant des populations entières, parfois chrétiennes, parfois slaves aussi, de Serbie et autres, parfois turcs, et avec une forte contrainte. Mehmed II est pratiquement obligé d'utiliser la force militaire pour déplacer des populations et les faire venir à Constantinople en leur consentant des avantages qu'il va essayer de révoquer ensuite, puis il va devoir revenir dessus. C'est l'idée de qu'on aurait des immeubles gratuits à Constantinople, en fait, offerts par la junte impériale et exempts d'impôts. Ça n'a eu qu'un temps. Ça rappelle d'une façon frappante la façon dont Constantin, après la fondation de Constantinople, en 330, avait aussi favorisé l'immigration à Constantinople en offrant littéralement des immeubles et des habitations et des exemptions d'impôts. Le même but s'applique au fond des choses. Alors, ce qui est donc évident, c'est cette revitalisation de Constantinople et de la région aux environs qui va devenir véritablement le cœur des communications, favorisé bien sûr par cette situation extraordinaire entre les deux détroits, la rencontre entre Asie et Europe, tandis que par exemple la capitale précédente d'Andrinople, en Thrace, l'actuelle Edirne, était là presque comme une veille armée face à Constantinople et face aux puissances occidentales, mais n'avait pas vocation à être une capitale mondiale. C'était faute de mieux, en quelque sorte.
Pera, le 23 juin 1453, à Antonio Lomellino. Mon très cher et noble frère, si avant cette lettre je ne vous ai pas écrit, et si avec celle-ci je ne réponds pas à celle que j'ai reçue de vous, je vous prie de m'en excuser. Mon neveu impériale a été fait prisonnier. J'ai fait tout ce qui m'a été possible pour son rachat. Mais son identité a été découverte et il s'obstine à ne vouloir aucun rachat. Entre-temps, le Seigneur en a eu connaissance et il l'a pris pour lui, faisant de même d'un autre Vénitien. À cela, nulle autre raison que le fait que le Seigneur veuille avoir quelques latins à sa cour. J'en suis dans un tel désespoir que je n'ai plus envie de vivre. Je suis sûre qu'il le fera sien, car il a l'âge requis. J'ai fait de nombreuses démarches, mais il ne m'a pas été possible jusqu'à présent de le récupérer. Je ne vais cependant pas renoncer, et j'espère qu'il n'y passera pas trop de temps. Angelo Giovanni Lomellino.
Ce sont des prisonniers qui ont une valeur marchande aux yeux de leurs propriétaires.
Marie-Hélène Blanchet.
Alors, les propriétaires essayent en général de savoir à qui ils ont affaire. C'est-à-dire qu'on a par exemple un exemple assez amusant qui est celui de Isidore de Kiev, le cardinal Isidore de Kiev, cardinal de l'Église romaine, qui était un byzantin d'origine, unioniste, et était sur place à Constantinople. Il a été fait prisonnier. Et comme il était blessé à la tête, il avait un bandeau autour de la tête et il n'a pas été reconnu, alors que son visage était très connu, hein, mais il n'a pas été reconnu par son propriétaire. Et de cette manière, il a pu être racheté par des amis de Pera, incognito. Voilà. Donc
pas très cher.
Donc pas très cher, c'est ça. Alors que justement, parfois les enchères montent quand il s'agit de personnages plus importants. D'où la difficulté de certains aristocrates à racheter leur famille.
Et qu'en est-il, on vient de parler d'un cardinal, mais qu'en est-il de tous ces religieux qui symbolisent de manière très puissante aussi la chrétienté à Constantinople ? Que vont-ils devenir sous le règne de Mehmed II ?
Alors, de la même façon que les familles s'organisent pour essayer de racheter les prisonniers, les monastères s'organisent aussi pour essayer d'avoir recours. On a quelques sources grecques, quelques textes d'archives très 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 rares, mais qui mettent en scène un personnage qui s'appelle Nicolas Isidoros, qui est un grec, donc un byzantin, resté orthodoxe, qui travaille pour le sultan, au service du sultan, et qui est sollicité justement par un certain nombre de... justement par ceux qui n'ont pas de famille, donc par des clercs, par des moines, pour racheter, pour contribuer au rachat, avancer la rançon de moines ou d'autres clercs.
Pour conclure, depuis la prise de Constantinople, le despote a montré tant d'insolence qu'il lui semble qu'il sera bientôt le seigneur de toute la terre, disant partout qu'il ne se passera pas 2 ans avant qu'il ne décide de venir jusqu'à Rome. Et par le vrai Dieu, si les chrétiens ne s'en préoccupent pas, et vite, il accomplira des choses incroyables. Mais s'il s'en préoccupe comme il le faut, alors Constantinople sera sa destruction.
Y a-t-il une réaction de l'Occident latin, des autres chrétiens qui aurait pu venir reprendre finalement Constantinople aux Ottomans pour le restituer aux chrétiens byzantins?
Les projets de croisade pour récupérer Constantinople, il y en a de moins en moins sérieux au fur et à mesure que le temps passe. Très rapidement, en tout cas, l'Empire ottoman va s'imposer comme une puissance militaire considérable avec qui il faut compter, tout à fait impressionnante par la force de son artillerie, la discipline de ses troupes. Sur mer, ils sont moins compétents, mais enfin bon, en réalité, avant 1918, on n'a pas repris Constantinople.
L'Occident n'a pas la puissance. Le pape, notamment, ne peut pas lever de troupes suffisamment puissantes pour s'assurer d'une victoire sur l'Empire ottoman.
Le pape tout seul, certainement pas. Non pas que le pape n'ait pas des moyens militaires, hein. Il peut payer pour construire quelques galères.
Non, mais il peut appeler à la croisade.
Oui, bien sûr. Mais pour ça, il faut que tous les princes chrétiens se mettent d'accord, qu'ils aient envie de mettre des sous là-dedans, qu'ils aient les troupes, qu'ils ne craignent pas que pendant ce temps-là, leurs voisins ne leur taillent pas des croupières.
Oui, mais comme pour toutes les croisades.
Oui, bien sûr.
Pour autant, on en a organisé un certain nombre.
Oui, mais bon, c'est une période qui est terminée. Ça ne marche plus vraiment.
Vincent Desroches, ces deux empires se superposent l'un l'autre, finalement.
Oui, ou tout au moins à quel point il y a une communication très forte entre eux, ce qui est assez logique. Quand nous disons les Turcs pour désigner le côté ottoman, nous avons raison sur un certain point, c'est-à-dire que effectivement à l'origine ce sont des peuplades nomades, turcophones. Mais de plus en plus, par le jeu de la conversion et de l'assimilation, en réalité ce sont d'anciennes populations byzantines qui vont faire le gros de la population qu'on appellera ensuite turcs, avec guillemets, en réalité qui seront distingués par la pratique de l'islam des sujets restant chrétiens. Et c'est ce qui explique que beaucoup de hauts fonctionnaires ottomans, en fait, sont d'origine chrétienne. À cela, plusieurs raisons. D'une part, la compétence des Byzantins, parfois d'aristocratie byzantine. On retrouve des éléments de la famille Paléologue au service du sultan. Et aussi la volonté, très vite, des sultans ottomans qui veulent les caractériser par rapport à d'autres pays musulmans, de s'appuyer autant que possible sur les populations non musulmanes pour ne pas être, disons, exposés aux problèmes tribaux qui ont toujours été un énorme problème par des monarques arabes ou aux pressions de la population. Alors c'est poussé à son maximum dans la fameuse institution des janissaires, la troupe d'élite d'infanterie qui est un des atouts majeurs de l'armée ottomane sont systématiquement à l'époque des enfants chrétiens enrôlés de force encore mineurs convertis à l'islam et qui du coup n'ayant aucune attache familiale conservée, ils ont obligatoirement rompu avec leur famille qui restait chrétienne, ils sont parfaitement dans la main du sultan. Et c'est la même politique qui se prolonge également à haut niveau des hauts dignitaires comme Mahmoud Pacha, qui sera vizir quelques années après 1453, sont en fait d'origine chrétienne.
Donc une classe intermédiaire très récemment convertie et très récemment soumise.
Exactement, et qui est intermédiaire, qui est très haut placée, sinon dans l'échelle de la richesse, du moins dans celle du pouvoir. Les sultans confient énormément de pouvoir militaire ou politique à cette catégorie, qui bien sûr essaye de se fondre dans la population musulmane autant qu'elle peut. Mais c'est l'un des ressorts majeurs de la domination du sultan en interne.
Et puis ce sont des boucs émissaires faciles en cas de
Pour les hauts fonctionnaires, oui. Mais enfin, de toute façon, déjà à l'époque, l'État ottoman, à la continuité d'ailleurs des régimes arabes précédents, est remarquable par la brutalité envers les hauts fonctionnaires disgraciés. En réalité, on ne s'attaque guère aux janissaires, même s'il y a des phénomènes où on voit qu'après une revue qui est mal tournée, Mehmed II fait donner la bastonnade à des officiers de janissaires, mais justement, on se garde bien touché. En revanche, effectivement, la tête d'un grand vizir peut vite sauter, déjà à l'époque. Et en particulier, ce sera le cas après le siège de Constantinople de Halil Pacha, qui était en fait le grand vizir du père de Mehmed II et qui, en général, peut-être par accointance avec les Byzantins, essayer de freiner la tentative impériale de Mehmed II et de détourner le projet de siège. À la veille de l'assaut final, c'est Halil qui est le dernier à plaider contre un assaut qu'il trouve trop risqué.
Et Mehmed II aurait voulu peut-être aussi se débarrasser plus vite que prévu de cette tutelle politique.
C'est possible. De toute façon, Mehmed II était un personnage très impérieux, même pour la moyenne des sultans, qui étaient rarement des gens très doux. Mais effectivement, il rencontre certainement un problème qui est systématique, en quelque sorte, que faire des vizirs et ministres du précédent sultan, qui à la fois sont précieux parce qu'ils maintiennent en place les rouages de pouvoir et ils ont la confiance souvent des militaires, de l'armée, on ne peut pas remplacer le personnel d'un coup, et qui en même temps, en quelque sorte, ne sont pas à la main du nouveau souverain, qui doit peu à peu imposer son personnel. D'où des phénomènes qui rappellent un peu des purges, si j'ose dire, et il n'y a pas que Mehmed II qui agira ainsi.
Bon, et puis il y a évidemment la grande aristocratie byzantine.
Nicolas Vatan.
Que là, il va essayer de récupérer.
Comment ?
Alors, pour les jeunes, en les mettant dans son palais, comme page ou comme demoiselle du harem, ce qui veut dire en fait une formation de haut niveau, dans un cas comme dans l'autre, qui permet de former des futurs cadres militaro-politiques de l'Empire pour les garçons et les épouses de ces messieurs pour les dames. Rarissimes sont les filles du harem qui terminent dans le lit du sultan. Ça, c'était pas le but de l'institution.
Les Byzantins savaient très bien que toutes les régions qui avaient été conquises bénéficiaient de la charia, c'est la loi islamique, qui veut que les chrétiens et les juifs soient tolérés et que les charges qui leur sont demandées, c'est de payer un impôt supplémentaire, l'impôt des chrétiens.
Qui est très élevé.
C'est difficile, moi j'ai pas de chiffre en tête, mais qui est variable en tout cas, c'est-à-dire qu'il n'a pu être peu élevé au début et ensuite augmenté. D'ailleurs, pour repeupler Constantinople, Mehmed II décrète une suspension de cet impôt. C'est-à-dire qu'il fait venir, et il déporte d'ailleurs, des populations entières, chrétiennes, arméniennes par exemple, et dans un premier temps, ces populations-là sont exemptées d'impôts.
Pour repeupler Constantinople.
Pour repeupler Constantinople, oui. Parce qu'il ne peut pas les peupler uniquement de Turcs. Démographiquement, c'est impossible. Il est obligé d'avoir recours donc, à ces mesures attractives. C'est aussi pour cette raison qu'il restaure le patriarcat de Constantinople, qu'il restaure aussi la présence d'un chef religieux juif. Donc, des autorités qui encadrent les populations et qui sont redevables. C'est-à-dire que c'est le patriarche de Constantinople, le patriarche orthodoxe, qui est redevable de l'impôt pour les chrétiens. Voilà, les communautés s'organisent de cette façon. Et on a des sources, donc le premier patriarche après la chute de Constantinople, Gennadios Kolarios, qui explique à quel point les Byzantins sont heureusement surpris dans leur malheur, hein, mais heureusement surpris de cette tolérance de la part du sultan. Et du fait que donc le culte continue à être autorisé, mais tout de même avec une situation très encadrée. C'est-à-dire que, par exemple, les chrétiens n'ont plus le droit de construire des églises, n'ont pas le droit de faire sonner les cloches.
Ils doivent se contenter du patrimoine préexistant.
Oui, et ils doivent se contenter de célébrer le culte, mais de manière à ce que ça ne trouble pas l'ordre public, en quelque sorte. Voilà. Mais néanmoins, cette situation a permis que l'orthodoxie se maintienne. C'est-à-dire que après la conquête ottomane dans l'ensemble des Balkans, dans certaines régions, il y a eu des conversions massives. Par exemple, l'Albanie a été, les Albanais se sont massivement convertis à l'islam. Mais dans les endroits où il y avait un clergé orthodoxe structuré et où ces mesures-là ont été prises, le christianisme s'est maintenu, l'orthodoxie s'est maintenue.
Dans les textes qui évoquent, même peut-être avec peu de détails, cette chute de Constantinople et cette grande victoire de Mehmet II, quel sens donne-t-on à cette victoire ?
D'abord, c'est une gazade. Alors, il y a deux concepts en islam, qui est la gaza et le djihad. La gaza, d'où vient notre razzia en français, c'est un combat contre, en général, contre l'infidèle. Donc, c'est une grande gaza. On a réussi à expulser des infidèles qui, par là même, sont de répugnants personnages qui ont refusé l'islam et qui, par conséquent, n'ont eu que ce qu'ils méritaient.
On les a expulsés, mais on les a largement gardés, finalement, sur la terre conquise.
Oui, mais comme sujet tributaire, donc admettant l'autorité du souverain musulman, comme zimmi. Et ça, c'est parfaitement légitime. Voilà. C'est l'islam qui a le pouvoir. Donc, il y a ça qui est très important. C'est un fait d'armes considérable, puisqu'il y a eu d'innombrables tentatives, et Mehmet II est le premier à avoir réussi. Donc c'est un grand coup, et qui va donner à l'Empire ottoman un statut de puissance considérable, même si le sultan Mamelouk est encore à ce moment-là considéré comme un personnage de très grande importance. Mais d'autre part, vous avez aussi des gens qui s'interrogent, parce qu'il y a une autre facette de tout ça, c'est que Mehmet II et des gens autour de lui considère que dès lors qu'il est le propriétaire légitime, puisque c'est Dieu qui lui a donné la victoire, bien entendu, du siège de l'Empire, il est l'héritier de l'Empire. L'Empereur, c'est lui. Et d'ailleurs, il y a quelques textes qui ironisent sur Constantin qui se prétendait César. Bon, ridicule. Ce qui signifie, bien entendu, en creux, le vrai César, le seul, le possible, c'est Mehmet. Et donc, il y a une revendication de cet héritage impérial. Ce qui ne veut absolument pas dire, bien entendu, qu'il n'y a pas en même temps de revendication d'une légitimité totalement musulmane, bien entendu. Mehmet II n'est pas un crypto-chrétien, il n'y a jamais pensé. Et ça, c'est un problème pour un certain nombre de milieux qui appartiennent justement à des gens des frontières ou à certains milieux du côté de Gallipoli ou d'Andrinope, des Dirnais, qui considèrent qu'en fait, ça n'est pas très orthodoxe tout ça, que ça consiste de plus en plus à donner le pouvoir à des convertis, à des gens qui ne sont pas des vrais musulmans, qui ne pratiquent plus vraiment les raids de Gaza contre l'infidèle de l'autre côté des frontières. Bref, une évolution contestable de la légitimité de l'émirat ottoman. Et ils sont sourdement hostiles à cette idée de l'héritage impérial et par voie de conséquence de l'installation à Istanbul. D'ailleurs, Mehmet II a hésité avant de faire d'Istanbul sa capitale. Ça n'a pas été, disons, un choix immédiat ni facile à faire. Donc vous avez des milieux qui sont dubitatifs. Et puis il y a un autre élément qui est que vous avez un certain nombre de textes qui tournent autour du milieu des derviches, qui racontent un peu la même histoire toujours. Mehmet II pense qu'il a conquis Constantinople, il croit que la force suffit. Mais en fait, il ne voit pas qu'il n'a pu prendre Constantinople que parce que nous, les derviches, nous avons la puissance mystique qui l'a permis. Akhemseddin, qui est un derviche qui collabore avec le pouvoir, va laisser entendre, si vous préférez, les gens qui rédigent sa biographie vont laisser entendre que ce sont ses prières qui vont permettre de faire la brèche et d'arriver au sommet des remparts. Et vous avez d'autres textes où ce sont des oulémas qui rappellent à Mehmet II que, tout de même, il ne faudrait pas croire que la force suffit, la prière, le monde des oulémas, c'est important. Et Mehmet II va bientôt en avoir la leçon parce qu'il va tenter le siège de Belgrade et il va échouer. Et on va dire, tu vois bien, la force ne suffit pas. Donc, dans tous ces textes, qui sont des textes à la gloire de la dynastie, à la gloire du sultan qui a conquis Constantinople, vous avez en même temps toute une série de choses où on voit qu'en réalité, bien entendu, c'est une société multiple, avec des courants politiques et idéologiques divers, et que Mehmed II ne fait pas vraiment tout à fait l'unanimité non plus. Mais il est le sultan, et ça, personne n'y peut rien.
Même la prise de Constantinople n'a pas permis à Mehmed II d'asseoir confortablement son pouvoir et
si,
son aura.
Si, mais il reste que vous avez des gens qui traînent un peu les pieds. Et son successeur, Bayezid II, qui est un consolidateur, va prendre toute une série de mesures un petit peu en retrait pour calmer le jeu, sans jamais non plus, disons, mettre en péril l'œuvre de son père. Mais il va donner quelques compensations symboliques ou pas à des gens qui trouvaient tout de même que Mehmed II allait un peu fort.
Marie-Hélène Blanchet, aujourd'hui, en Europe occidentale, on a la sensation d'avoir un petit peu oublié cet événement de la chute de Constantinople. Cet événement est-il encore investi de manière très forte par les autres descendants ou les autres pays qui ont une histoire commune avec cette chute de Constantinople et avec l'histoire de Constantinople en général?
Parfaitement, oui. Pour les Grecs, c'est vraiment... c'est-à-dire que j'ai plusieurs fois utilisé le terme byzantin ou grec comme des synonymes. Les Byzantins sont de langue grecque, mais étaient ethniquement divers et multiples. C'est un empire multiculturel. Pendant la domination ottomane, donc jusqu'en 1830, et à partir de la fondation de l'État grec, l'histoire de Constantinople, de la chute de Constantinople et l'histoire byzantine en général, a été l'objet d'une appropriation de la part des Grecs avec l'idée qu'ils en étaient les descendants directs. Voilà. Et de ce point de vue, il y a une petite concurrence avec les Slaves, qui eux aussi, en fait, se sont considérés comme les descendants, probablement moins directement et du fait de la différence de langue, mais en tant qu'orthodoxes, héritiers eux aussi de cette histoire. Et la plupart des populations des Balkans ont partagé avec les Grecs cette longue durée de domination ottomane, que dans les années 50, 60, 70, on appelait encore la période du joug ottoman. Mais heureusement, l'historiographie a évolué sur ce plan. Et donc, on sait que cette domination ne s'est pas exercée de la même manière, avec autant de dureté, disons, selon les périodes. Et elle a complètement façonné tout l'Orient européen. C'est quelque chose d'extrêmement présent. Alors, dans l'ensemble de l'Europe de l'Est, sans conversion massive à l'islam, conversion de certaines populations, les Albanais, du Kosovo, qui étaient des régions de mixité, en fait, confessionnelle, orthodoxe et catholique. Donc c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles la conversion a été plus facile. Ces populations sont généralement restées dans leur ensemble chrétiennes, orthodoxes, avec un fort particularisme orthodoxe par rapport au catholicisme occidental. Pour le coup, les cultures divergent beaucoup, en fait. Peut-être encore plus, d'ailleurs, à l'époque moderne, à cette époque de la domination ottomane de ces régions, qu'auparavant. C'est-à-dire que les chrétiens latins et byzantins étaient peut-être plus proches, en tout cas communiquaient plus, même sur le plan confessionnel et malgré l'idée du schisme qui les séparait, avant la chute de Constantinople qu'après.
Peygamber Efendimiz buyurdu ki, Konstantiniye elbet bir gün fetholunacaktır.
Il y a un film turc, le film turc qui a bénéficié du plus gros budget de l'histoire du cinéma turc jusqu'ici. Un film turc produit et sorti en 2012 qui s'intitule Fatih 1453 de Faruk Aksoy, qui a connu un succès incroyable, un grand succès populaire en Turquie. Quelle en est la lecture de l'événement ?
Alors c'est une lecture très turque. C'est-à-dire le succès n'est guère allé au-delà de la Turquie, à ma connaissance. Et en revanche, j'ai été remarquable en Turquie. Ce n'est pas un hasard. Parce que c'est une lecture fondamentalement nationaliste, c'est-à-dire présentant effectivement la conquête comme parfaitement légitime. À la limite, c'est Constantin XI l'agresseur, par un renversement de l'histoire. Et aussi présentant spontanément l'entreprise ottomane comme quasi purement religieuse. Et là, nous sommes tout à fait en conformité avec l'actuelle majorité en Turquie, alors que Mehmed II, de façon évidente, a une dimension musulmane et veut s'inscrire, comme le Gazi qui l'emportera face à Constantinople, mais en même temps et surtout un homme politique, hein, qui a sa propre recherche de pouvoir et sa géopolitique, qui est très claire. Et donc, c'est une version qui islamise au maximum, disons, la conquête, et qui présente aussi l'Empire byzantin comme une structure totalement décadente et immorale. Bon. Avec des scènes pratiquement de harem, si j'ose dire. Enfin, comme si on voyait dans certains films occidentaux sur l'Orient musulman, pratiquement des jeunes femmes nues dans tous les palais impériaux, alors qu'au contraire, la société byzantine de 1453 est remarquablement pudique. Bon, il n'y avait absolument aucune chance d'avoir les scènes que l'on voit dans le film. Donc, il y a un imaginaire qui travaille et qui, évidemment, renvoie à un projet de légitimation, d'une part, de la Turquie moderne dans sa maîtrise du territoire, mais aussi de la Turquie comme profondément islamique. Et c'est une lecture qui, par exemple, n'aurait pas été possible sous Mustafa Kemal, où elle était tout à fait incongrue et même sans doute censurée, car il y avait chez Mustafa Kemal, au contraire, et encore récemment, la volonté, au contraire, de minorer la part de l'islam dans la définition de la nation turque.
Donc il s'agit vraiment d'un film ultra contemporain, Vincent Desroches, et qui s'inscrit dans le programme politique du gouvernement turc actuel.
Tout à fait. Il est très clair qu'il correspond parfaitement et que ce film, qui paraît-il aurait été le plus gros budget de tournage des films turcs, n'aurait pas été possible sans au moins l'accord et l'autorisation du gouvernement. Et aussi que sa diffusion et son succès correspond bien à un écho de cette majorité islamique actuelle dans la bourgeoisie turque et d'une relecture qui va avec de l'histoire turque.
Merci à Marie-Hélène Blanchet, Vincent Desroches et Nicolas Vatin. Prise de son, Philippe Thibault, Olivier Dupré et Frédéric Quérou. Lecture, Renaud Bertin, Corinne Legoix. Mixage, Nadège Antonini. 1453, la chute de Constantinople. Anaïs Quien, Françoise Camard.
Nous continuons demain notre série de rediffusion de la Fabrique de l'Histoire sur le Moyen-Âge après deux documentaires, hier et aujourd'hui. Nous vous proposons demain un débat sur les enquêtes que les rois de France dépêchaient dans leur royaume pour mieux connaître leur sujet et leur territoire.